cerebro,
el cerebro oriental. Je suis totalement
satisfait.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. La loi numéro 11/009 du 29 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dispose obligatoirement qu'il soit réalisé une étude d'impact pour toute création d'unités industrielles, commerciales ou agricoles susceptibles de porter atteinte à l'environnement. En RDC, plusieurs enquêtes et études font état des cas de pollution occasionnée par l'installation de certaines usines autour des quartiers résidentiels. Certains observateurs estiment que pour réduire et prévenir ces cas de pollution, il faut essentiellement faire appliquer cette loi du 29 juillet 2011. Une autre opinion pense que la solution passe par l'interdiction formelle de l'installation de ces usines dans des quartiers résidentiels. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Sylvain Matondou. Julie César Bongonda est à la réalisation et J.R. Lungembo est à la coordination. Piro et la Meiji vous le présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous êtes nombreux à vouloir intervenir dans cette émission consacrée, bien sûr, à la protection de l'environnement dans votre milieu. Vous pouvez nous appeler au 081-890-4969 pour intervenir en direct votre témoignage par rapport à votre quartier, votre milieu. Y a-t-il une usine installée à proximité de votre quartier? Comment l'usine se comporte-t-elle? Mais ensemble, comment dégager les pistes et les solutions pour faire appliquer la loi pour principe de protection de l'environnement, c'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé à cet échange M. Jean-Claude Emene, qui est directeur exécutif du groupe d'études environnementales du Congo. M. Emene, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Gilles.
C'est Piro et la Mégie. Alors, dites-nous, avant peut-être d'évoquer la loi, en quoi consiste le travail du groupe d'études environnementales du Congo?
Merci. Le groupe d'études environnementales du Congo, c'est un service spécialisé du ministère de l'Environnement, créé en 2006, pour s'occuper de l'évaluation environnementale et sociale des projets. Au fait, c'est une structure qui a été créée pour pérenniser les acquis du grand programme multisectoriel d'urgence pour la réhabilitation, la reconstruction, vous vous souvenez de ces grands programmes. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, c'était une cellule qui s'occupait des aspects environnementaux. Mm-hmm. Et afin de pérenniser tous les acquis à la fin de ce programme, il avait pris à l'autorité ministérielle de créer cette structure spécialisée.
Et quand la loi, par exemple, l'article 21 qui parle de tout projet de développement d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, fait allusion à l'étude d'impact environnemental, l'étude est effectuée par votre structure ou bien c'est le projet, que ce soit la personne morale ou physique qui veut installer, par exemple, son usine, qui fait l'étude et l'étude est approuvée par le ministère ou bien c'est au niveau du ministère que l'étude est réalisée?
Disons ceci, c'est que à partir de la loi 009 du 9 juillet 2011 et ses mesures d'application dans les décrets 14/019 qui définit en fait les mécanismes procéduraux relatifs à la protection de l'environnement, c'est clair que les études sont faites par les bureaux d'études agréés par monsieur le ministre de l'Environnement.
C'est-à-dire que les bureaux, ils peuvent être des bureaux des cabinets privés, mais ils sont agréés au ministère de l'Environnement.
Affirmatif, c'est exactement ça. Et en fait, les promoteurs qui visitent ces bureaux-là pour faire cette étude.
Voilà. Et la personne qui a un projet, par exemple, d'une savonnerie, que ce soit une exploitation minière, que ce soit n'importe quelle activité, recourt à un bureau spécialisé.
qui fait l'étude et après, cela est approuvé au niveau du ministère.
Exactement, c'est ça.
Mais est-ce que toutes les usines à Kinshasa, par exemple, il y en a beaucoup, il y a des usines de fabrication des savons, des produits de beauté, est-ce que toutes ces usines, toutes ces sociétés passent obligatoirement par cette procédure?
Ben, je voudrais ici situer la question à deux niveaux. D'abord, il y a l'existant, et il y a certaines dispositions de la loi qui prévoient à ce que les établissements que nous appelons communément aujourd'hui les installations classées, qui ont existé avant la loi, doivent les mettre en conformité par rapport à la loi. Et donc, ce fait qu'il y a plein d'usines qui ont été installées bien avant la loi et sans aucune étude d'impact environnemental. Aujourd'hui, la démarche consiste à ce que ces installations classées se mettent en conformité. Donc, les promoteurs sont obligés d'élaborer ce que nous appelons communément aujourd'hui un plan de mise en conformité environnementale de leurs activités, qui est en fait un cahier de charges clair et net. Et ça, la procédure, elle est en cours pour le moment. Et donc, je vous dirais peut-être qu'il y a à peine, même moins de 10% qui veillent déjà déposer leur plan de mise en conformité.
Et pour permettre aux auditeurs de comprendre, quand on parle de cette étude, elle consiste en quoi, clairement, pour que les auditeurs comprennent un peu, ça consiste en quoi l'étude d'impact environnemental?
Voilà, pour la loi, en fait, tout nouveau projet, en fait, est soumis à une étude d'impact environnemental. L'étude d'impact consiste en quoi? À la prise en compte de l'environnement dans tous les projets, que ce soit industriel, que ce soit de développement. C'est une réponse tout simplement parce qu'il y a des années, l'environnement n'était pas pris en compte. Et c'est qu'on a produit des richesses, que je parlerai entre guillemets, et on s'est retrouvé à un certain moment, c'est que ces richesses qui ont été produites ont eu des impacts très très négatifs sur l'environnement. Je prends aujourd'hui les cas, on est en train de décrier le changement climatique. Il s'agit au fait de l'industrialisation, de la production de gaz à effet de serre, et effectivement, les pays industrialisés ont tiré beaucoup de bénéfices, mais ils n'ont pas fait attention à l'environnement. Alors, la donne environnement vient s'ajouter maintenant pour un développement durable, c'est-à-dire un développement qui tient compte de trois piliers, des sociales, et puis l'environnement, et l'économie. Il faut qu'il y ait quand même cet équilibre-là. Donc, maintenant, on s'est dit, faisons attention à l'environnement. Et c'est cette étude d'impact qui va montrer est-ce que ce projet est viable sur le plan environnemental ou pas. Voilà. Cette étude-là, je ne sais pas si je dois décrire les différentes étapes, mais en soi... Dans cette étude, vous avez on fait d'abord un état des lieux du milieu d'insertion de ces projets-là. On doit savoir comment l'état des lieux du milieu d'insertion. Quels sont les paramètres qu'on peut voir? On va voir le sol, on va voir l'air, on va voir l'écosystème qui s'y trouve. On va voir les populations qui sont environnantes. Et ça, c'est la première des choses à faire, un état de lieu. Deuxièmement, on doit comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut faire dans ces lieux-là. Est-ce qu'il y a compatibilité ou pas? Troisièmement, on doit voir quelles sont les dispositions légales, réglementaires que la CGT doit répondre afin de mettre en œuvre son activité. Et tout ceci doit se faire bien avant. C'est pas qu'on a déjà, on est dans des activités et puis on commence à faire son étude. Non, ça se fait vraiment a priori. On fait cette étude-là. On doit décrire quelles sont les activités. Et sur base de ces activités, vous savez dégager quels sont les impacts. Et dès qu'on a dégagé les impacts, on va dire qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui est des impacts qui sont négatifs, et comment essayer de les réduire, les éliminer éventuellement. Mais aussi pour les impacts qui sont positifs, et comment la bonification, comment faire davantage.
Mais est-ce qu'il arrive de quoi, supposons qu'il y a un projet qui doit être exécuté quelque part, on se rend compte que son impact sur l'environnement est très négatif, mais le projet peut être aussi rentable pour le développement, pour le pays. Et dans ces cas, comment on se comporte? Par exemple, on dit nous pouvons exploiter le pétrole ou on peut exploiter ça, mais on se rend compte que ça peut avoir un impact sur l'environnement. Mais le projet, il est vraiment important aussi pour la croissance économique. Et dans ces cas, comment on arrive à s'en tirer?
Je disais qu'il faut concilier les trois. Donc, nous avons l'économique, nous avons les sociales, nous avons l'environnement. Sur le plan économique, on peut dire que vraiment, ça nous apporte beaucoup de richesses. Mais ces richesses, si demain, nous ne savons plus nous ne pouvons pas jouir de ces richesses-là, c'est un problème. Néanmoins, le plan de gestion environnementale que la société est appelée à faire, ça a un coût.
Mm-hmm.
Il se pourrait que ce coût soit aussi important si on tient coûte que coûte à réaliser ces projets-là. Donc il y a l'équilibre, il faut trouver le juste milieu.
Mm-hmm.
Sinon, c'est un investissement qui ne peut pas être, rentable. Donc on doit équilibrer l'économique avec le social et l'environnement. Et l'outil important pour nous, c'est au niveau du plan de gestion. Le plan de gestion, en fait, c'est ces cahiers de charges qui permettent, qui reprend quelles sont les activités qui seront menées, ça coûte quoi, et les timings pour réaliser ces activités. De sorte que si on intègre les budgets relatifs à la gestion environnementale dans les coûts du projet, on peut prendre une décision. Imaginez-vous que les budgets de la mise de réhabilitation, par exemple, soient beaucoup plus importants que le projet en soi. C'est que ça va donner comme bénéfice. Je pense que ce projet-là ne sera plus rentable. Donc, on doit jouer sur l'équilibre.
Merci. Nous allons revenir à vous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sous notre standard. Enfin, on nous appelle de Lubumbashi, Rachel Laetitia Kinshasa, Olivier Akikuit dans la province du Kivu. 081-890-4969. C'est votre intervention par rapport à la mise en application de la loi numéro 011-009 du 29 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement qui dispose qu'il faudrait obligatoirement réaliser une étude d'impact pour toute création d'unités industrielles, commerciales ou agricoles susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Quelle est la situation dans votre milieu? Comment arriver à mettre en pratique ces dispositions de la loi? C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé à cet échange M. Jean-Claude Emene, directeur exécutif du groupe d'études environnementales du Congo, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Sinon, vous nous appelez de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute.
D'accord. Je voulais dorénavant vous dire que l'invité dans toutes ses explications, il est vraiment impeccable. Mais je voulais lui rassurer que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, des lois, ce sont des simples théories comme des dessins dans des feuilles d'un cahier. Donc, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Nous sommes ici à Lubumbashi le mois passé, d'ailleurs, ça a même passé à Okapi, Lubumbashi. Donc, il y a une société dénommée Roche Mining qui a versé de l'acide sulfurique dans ses installations. Alors, tous les quartiers périphériques de leur usine a été toujours là sous intoxication. Les gens ont inhalé cette forte odeur qui a causé des énormes dégâts. Je peux vous dire que ça a même coûté la mort d'une personne.
Oui, sinon, c'est dans quel quartier? C'est dans quel quartier précisément?
Quartier de la Loano, dans la commune de La Roche.
Mm-hmm.
Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont restées à moitié muée, donc la voix ne sort plus à cause de ce gaz qu'on avait inhalé. Il y a une même des morts. Donc, si vous doutez, informez-vous à vos collègues au Capitole de Lubumbashi, vont vous dire, parce que ça a même passé au cours d'un journal. Donc, cette société, je vous assure, c'est en plein ville. Donc, en plein ville où c'est installé, il y a les quartiers périphériques qui entourent ces installations. Alors, quand je mets un peu sur une même planche toutes ces explications que les est en train de fournir, je comprends qu'il y a ce sont de simples théories parce que ça n'a rien de compatible avec ce qui se passe en pratique.
Oui, sinon, si on peut vous retenir un peu, décrivez-nous, est-ce que c'est l'usine qui s'est installée avant et la population, comme on a vu ailleurs, est venue petit à petit occuper les quartiers environnants de l'usine ou l'usine a été installée après que les gens aient occupé ces quartiers?
Monsieur Pierrot, je ne pense pas que vous pouvez me poser cette question parce que les services de l'État, si les gens sont venus s'installer après, ce ne sont pas par leur propre initiative. Ils ont acheté des parcelles auprès de l'État. Et l'État, avec ce service de cadastre, sont venus délimiter les parcelles aux environs de cette usine. Donc, si peut-être vous avez pensé que installer les gens autour de l'usine, ça pouvait leur coûter comme ça leur a coûté aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils pouvaient prendre toute l'initiative. Donc, lorsqu'ils ont jugé bon d'octroyer des parcelles à côté de cette usine, et aujourd'hui, de cette usine qui a causé ces torts, alors je ne pense pas que La question serait de savoir qui a précédé, si c'est la population ou c'est les villes. Non, c'est qui a accepté. Si c'est un danger, il ne pouvait pas travailler de partout.
Merci beaucoup. Sinon, ça pose vraiment c'est la question aujourd'hui. À Kinshasa, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'unité résidentielle industrielle. Mais quand vous regardez aujourd'hui, industrielle, c'est encore plus résidentiel. C'est ça le problème. Et pour vous, vous estimez qu'il y a aussi la responsabilité de services de l'État qui se sont occupés du lotissement. Si les usines s'étaient installées avant, pourquoi avoir loti ces quartiers alors qu'on savait qu'il y a une usine qui peut arriver polluer l'environnement, le dommage pour ce qui est arrivé. Et là, vous estimez que ce que notre invité nous explique, c'est effectivement ce que la loi dit, mais sur terrain, ce n'est pas ce que vous avez vécu par rapport à ces quartiers de la Loano dans la commune de La Roche, dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, Finan, pour ces témoignages. Et notre invité pourra nous dire comment concilier ce que la loi dit et la pratique sur terrain. Rachel, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour, Rachel.
Allô, bonjour, ici, bonjour, ça.
Merci beaucoup de nous avoir rejoint dans cette émission. Rachel, on vous écoute.
Okay, merci beaucoup. Moi, je veux juste ajouter sur ce que l'ami, le premier intervenant, vient de dire. Bon, moi, je pense qu'il sera mieux d'essayer de vérifier que ces usines puissent être construites loin de la ville, quoi. En fait, parce que si on disait que maintenant on peut fermer ces usines, vous pensez à des conséquences que peut avoir sur la population, tout ça. Alors, je pense que fermer les usines, c'est la meilleure solution à faire. La meilleure chose à faire, c'est qu'on peut surveiller que c'est une poussée entre contrôle loin de la ville. C'est mieux. Par contre, vous avez dit à limiter. Là, vraiment, il y a plus. Là, aujourd'hui, il y a un dégât industriel. Moi, je vois plus de gens qui les usines. Il y a des gens dorés à côté des usines. On a les gouvernements attendent qu'ils puissent avoir de l'incendie aux usines pour aller faire. Oh, que ça a été construit au milieu de la ville ou tout ça. Alors, moi, je pense que la meilleure chose à faire est de vérifier, de faire tout pour qu'ils usines puissent être construites loin de la ville. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Rachel. Vous pensez que tout ce qu'on doit faire, c'est éloigner les usines des quartiers qui sont habitables, mais aussi la question, c'est de savoir, maintenant qu'il y a autant de gens qui ont occupé les espaces aux alentours des usines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délocaliser ces gens. Voilà autant de questions qui se posent dans cet échange pour arriver vraiment à mettre en pratique ce que la loi dit. Merci beaucoup, Rachel de Kinshasa. Olivier, vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. Bonjour et bienvenue, Olivier.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute. Il y a Rachel qui pense que aujourd'hui la question c'est qu'il faut éloigner de plus en plus les usines des lieux des quartiers habitables. Mais la grande question c'est de voir chaque fois que les usines ont été éloignées, mais avec le besoin de l'occupation, les gens se sont rapprochés de plus en plus des usines. Alors comment on peut arriver à mettre en pratique tout ce que cette loi stupide, Olivier?
Ok, merci. Moi, j'aimerais d'abord préciser une chose. En fait, si aujourd'hui on s'occupe du problème de l'environnement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça a un impact réel sur la santé des populations. Mm-hmm. Et c'est pour ça que dans toute activité humaine, on essaie de voir l'impact sur l'environnement. Alors, chez nous, à RDC, il y a un problème parce que ici, aujourd'hui, nous parlons des usines, mais en réalité, vous allez remarquer que nous qui sommes dans des villes en province, ce ne sont pas des usines qui dérangent l'environnement, c'est des petites activités de l'homme, mais des activités qui ne sont pas contrôlées par l'État. Et alors, les usines, nous voyons Kinshasa, Lubumbashi et peut-être Likadi et autres, je vais parler de ça, mais je vais d'abord parler des activités banales, comme nous en avons à Kikwit. Nous avons des petites activités, les garages, qui font des vidanges moteurs tous les jours, et ça, les huiles moteurs sont jetées dans la nature. Alors, lorsque on fait des vidanges, par exemple, le long des rivières, vous comprenez que l'environnement des rivières est vraiment pollué et ça dérange la santé de nos poissons et par ricochet, la santé des hommes. Mm-hmm. Nous avons d'autres activités à Kikwit, nous avons les moulins, nous avons les décortiqueuses de riz et qui sont réalisées en pleine ville. Et si vous allez au grand marché, c'est ce que vous appelez le grand marché ici à Kikwit, de rouler sur l'avenue Kwango, et bien quand vous vous promenez là-bas, vous respirez à peine. Et il suffit de passer une journée là-bas, le soir vous avez un rhume, vous avez une toux, dont vous ne connaissez pas l'origine. Quand vous allez vers le pont Kwilu, vous avez des moulins, vous avez des coutures de riz, vous avez... C'est toute l'activité là que j'aimerais qu'on puisse intégrer dans le travail dont j'étais en train de parler. Parce qu'en fait, finalement, dans beaucoup de villes, ce sont ces petites activités qui dérange plus l'environnement que les industries. Parce qu'ici, nous n'avons pas d'industrie. Alors, si vous prenez par exemple Kingaboa, à Kinshasa, vous avez les usines de fabrication de mousse. Alors, j'aimerais qu'on puisse, plutôt que, enfin, comme disait Rachel, il faut les délocaliser, parce que maintenant, on ne peut plus vivre à côté de ces usines-là. Et de surcroît, vous allez remarquer que toutes ces usines déversent leur lubrifiant après entretien, c'est dans la de fleuve, et avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Donc, je crois qu'il y a moyen que la loi soit appliquée, mais il faut d'abord que tout le monde prenne conscience. Parce que les fois, nous en avons beaucoup hier. Et le service de l'environnement, je peux vous dire que c'est parmi les services de l'État qui génèrent des recettes parce que c'est chaque jour que ces gens sont dans les maisons de commerce, partout où il y a une activité qui commence, l'environnement se pointe. Et alors, généralement, on leur demande, mais en fait, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Parce que l'environnement est pollué tous les jours. Donc, c'est une question très sérieuse, mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse modéliser d'abord notre façon de voir les choses avant de parler de la loi. Parce que la loi a existé depuis longtemps, il faut seulement l'appliquer correctement et on aura des solutions à beaucoup de problèmes d'environnement.
Merci beaucoup, Olivier. Vous avez estimé que ces problèmes peuvent être abordés de deux manières. Il y a d'abord l'industrie à petite échelle, cela veut dire les activités quotidiennes de l'homme, que ce soit les fonderies, les moulins, les activités industrielles à petite échelle dans les quartiers. Tout ça sont des questions qu'il faudrait aussi aborder, mais voir aussi à grande échelle comme ces grandes usines ou bien ces grandes sociétés minières. Mais vous avez évoqué la dimension de la prise de conscience par rapport à l'impact de tout cela et on peut arriver à faire appliquer la loi. Merci beaucoup, Olivier. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, maître.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Papine.
On vous écoute, maître Machaka.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Le sujet est très important puisque ça parle de la vie de la population. Puisque vous savez, ce n'est pas la première fois que les thèmes passent sur votre chaîne mère concernant les positions de l'environnement, M. Pierrot. Et ce n'est pas la première loi à être votée, mais comme le président Zéro dit, c'est l'applicabilité de ces lois qui est nécessaire. Comme ici chez nous, à Lubumbashi, M. Pierrot, vous savez, l'environnement est pollué. Ce n'est pas seulement par l'implantation des usines tout près de la population, mais même le passage de ces usines, des véhicules là qui transportent les matières là vers les carrières, en les amenant des carrières vers les usines. Ça passe en pleine population et ça tombe même sur la route qu'il y a les enfants même qui prennent cette poussière là, ils jouent avec ça. On a dernièrement, il y a une société, je ne sais, je ne peux pas citer leur nom, qui, dont les matières passent sur la péniche où elle est ici, à la Rouachie, à Lubumbashi. Ils avaient commencé à mettre leurs agents pour commencer à ramasser la poussière là, des matières qui tombent sur la route. Mais ça fait seulement une semaine. Et par après, ils ont abandonné. Mais qu'est-ce qu'ils font, M. Pierrot, aujourd'hui? Ils prennent de l'eau. Et quand la population s'énerve, ils commencent à faire verser de l'eau. Et de l'eau là qu'ils versent sur la route, M. Pierrot, c'est de l'eau qu'ils lavent avec la matière là-bas. Ils viennent encore verser sur la route, ils polluent encore l'environnement. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, M. Pierrot, aujourd'hui, le service de cadastre aussi est impliqué dans cette situation d'intoxiquer la population. Dans quel sens, M. Pierrot? Aujourd'hui, il peut y avoir une usine qui s'implante un peu éloignée de la population. Mais le cadastre vient, il a loti encore dans les alentours de cette usine-là. Vous voyez que la responsabilité est partagée. Alors, notre gouvernement doit prendre des dispositions. Vous savez qu'il y a des usines qui sont implantées en pleine population, comment les déplacer? Puisque ça ne va pas. Il y a certains quartiers comme le quartier Kabeck à la Rouachie, là-bas, ici à Lubumbashi. Les gens ne parviennent même plus à puiser de l'eau de la pluie. Est-ce qu'ils puissent, ce temps-là, il y a de la pluie à l'intérieur? Alors, la vie n'a pas de prix, M. Pierrot. Notre gouvernement doit prendre ses responsabilités. Tous les services qui sont impliqués dans la position de l'environnement, ils doivent être interpellés en justice et être sanctionnés, M. Pierrot.
Merci beaucoup, maître. Machakia, vous avez déploré la situation de l'avenue Kiwele où il y a par exemple les bruits des minéraux, la poussière transportée, c'est qui tombe, les enfants jouent avec, et l'eau même qui est utilisée pour asperger, mouiller le sol, la même chose. Et cette question de lotissement aux alentours des usines, mais vous estimez que l'État a la responsabilité de pouvoir protéger la population et faire appliquer les dispositions de la loi. Étienne et Pierre, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-43-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines et nous proposer aussi votre piste et des solutions pour arriver à protéger l'environnement et dans notre milieu, surtout en ce qui concerne l'installation des usines et les différentes activités qui ont un impact sur l'environnement. 081-890-49-69.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir, le point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Jean-Claude Emenier. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés. Il y a eu des témoignages, mais aussi des pistes et des solutions de ce qui peut être fait. Mais tout le monde est d'accord que la loi, on peut bien la faire appliquer si on veut. Alors, d'une manière regroupée, vous avez noté avec moi, ensemble, ces réactions des auditeurs, quelles réponses on peut leur donner.
Merci, Pierrot. Nous compatissons avec nos frères de la Roissy. Pour ce qui est arrivé, nous ne sommes pas au courant, peut-être on n'a pas suivi. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que, comme vous venez de m'introduire, il y a des approches, il y a des solutions qui ont été aussi proposées. Moi, je pense que le tout premier problème, c'est un problème d'aménagement du territoire. On doit être vraiment précis là-dessus. Une zone qui a été déclarée industrielle doit demeurer industrielle. Et si demain on modifie son affectation, ça va poser des très très sérieux problèmes. On ne peut pas du jour au lendemain passer d'une zone industrielle vers une zone d'habitation. Et on ne peut pas aussi, en réalité, on ne peut pas combiner les deux. Parce que même le norme, c'est en fonction des zones où on s'y trouve. Et je ne vois pas comment on va combiner les normes industrielles avec les normes urbaines, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est ces problèmes-là qu'on doit vraiment résoudre en amont. On doit savoir bien aménager notre pays pour qu'on sache que l'affectation des terres doit être faite de manière rigoureuse. On ne doit pas être complaisant. Et ce que nous subissons aujourd'hui, au fait, c'est cette complaisance-là, où une zone industrielle est en train d'être transformée en zone résidentielle. Je vais être concret, je prends l'état des limités. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé limité industriel. Effectivement, il y avait des industries. Aujourd'hui, il y a des habitations. Ce n'est pas facile de trancher et de prendre une décision aujourd'hui. Si on doit délocaliser une industrie, je prends les cas qui se trouveraient à limiter aujourd'hui, on doit être conséquent, on doit payer cette facture-là. Parce que si réellement on s'est retrouvé dans cette zone-là par le droit qu'il fallait. Deuxièmement, en rapport avec la gestion même de l'environnement, moi je crois que l'environnement c'est un bien commun à tous. Et la responsabilité de sa gestion relève à nous tous d'abord. Nous devons changer nos comportements. Là, on est en train d'évoluer dans l'environnement qu'on peut dire, je crois, c'est Kikri qui nous a parlé un peu de moulins, des activités, des garages, des pirates. Effectivement, l'État est en train de faire un effort. Je crois que vous êtes à Kinshasa. À l'époque, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup dans tous les coins, il y avait des garages. Et certaines dispositions ont été prises au vu de l'impact, surtout des huiles usées, qui ont vraiment un impact très négatif sur la santé, de faire de sorte que nous, on a modernisé quand même certaines stations. Aujourd'hui à Kinshasa, dans toutes les stations, on peut faire des vidanges. Le changement des mentalités passerait à ce que tout celui qui a un véhicule, il n'a qu'à aller à la station. S'il veut protéger l'environnement, il n'a qu'à aller à la station pour faire ses vidanges. Ça joue beaucoup. Deuxièmement, nous devons respecter les respects de normes, d'une manière générale, si je peux parler ainsi. Les normes doivent être respectées. Il y en a beaucoup dans ces pays, dans tous les secteurs, et on doit les respecter. Là, je veux au niveau même de l'urbanisme. On ne peut pas lotir tel qu'on a dit là. C'est-à-dire, on n'a pas respecté la norme de lotissement. Troisièmement, par rapport à notre présence sur le terrain, moi je pense que la loi est née que de 2011 et les mesures d'application sont en train d'être prises. Aujourd'hui, l'État s'est rendu compte d'une chose, d'une évidence, c'est que l'État ne sait pas se déployer de manière beaucoup plus efficace. Ça, c'est le travail qui revenait à l'administration classique. Aujourd'hui, par cette loi, il y a création d'une agence, congolaise de l'environnement qui doit prendre en charge réellement toutes ces questions-là. Pour qu'on fasse notre travail, non seulement avec le professionnalisme, mais qu'on puisse avoir le moyen de notre politique. La gestion de l'environnement, il faut des moyens à mettre en place. Mais ces moyens, comment les avoir? On doit savoir que les principes sont clairs. C'est les principes de pollueur-payeur qui doivent s'appliquer de manière beaucoup plus correcte. Aujourd'hui, ça c'est fait au niveau des entités administratives décentralisées, au niveau des villes, des mairies, des provinces. Mais souffrez que je vous dise que ça ne se fait pas de manière très très efficace. Parce que la réhabilitation de l'environnement, ça demande beaucoup beaucoup de ressources par rapport peut-être à ces modiques sommes qui sont collectées en termes des taxes. C'est pas possible, ça ne peut pas se compenser. Raison pour laquelle, avec la mise en application effective de cette loi, je crois dans les jours qui viennent, réellement, il y a la responsabilité, que ce soit civile même du promoteur du projet, qui, en présentant son plan de gestion, nous devons être sûrs que la prise en charge de ces impacts sur l'environnement sera faite. Parce que sinon, c'est en quelque sorte, c'est comme si c'est l'État qui est appelé à débourser de l'argent pour assainir l'environnement, alors que ce n'est pas ça. L'environnement devrait être assaini par les ressources qui proviennent de celui qui l'a impacté, et donc du promoteur du projet. Et le promoteur doit faire attention de sorte qu'il puisse respecter réellement les normes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que souvent, ils ne respectent pas les normes. Et nous pensons que dans le jour qui vient, on sera beaucoup plus efficace. Et l'État, comme je disais, s'est désengagé. L'État a fait un bilan. Et il a compris que non. Pour cet aspect-là, il faut avoir une structure qui est autonome, qui doit avoir ses moyens et qui doit se déployer de manière beaucoup plus efficace. Bon, en rapport avec, je crois que j'ai balayé un peu.
Oui, presque l'ensemble. Mais la grande préoccupation aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ça, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitations. En fait, les habitants sont venus rejoindre les quartiers industriels, il y avait déjà des usines. C'est plus difficile, comme le disait Rachel tout à l'heure, de pouvoir déplacer une usine. Mais c'est aussi assez compliqué de pouvoir déplacer la population. Mais dès lors, pour aider ces populations, par exemple, qui subissent déjà, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit ailleurs, alors, d'une manière plus efficace, comment on doit s'y prendre aujourd'hui? Si on ne peut pas avoir des économies suffisantes pour déplacer une usine, par exemple, tout comme aussi déplacer ces habitants qui sont déjà à des milliers dans des quartiers, mais il faut qu'on trouve quand même une solution intermédiaire qui permette à un certain moment et à l'usine de pouvoir fonctionner, mais à la population d'être aussi assez protégée pour que l'un ne puisse pas vivre sous la domination de l'autre. Cela veut dire l'usine et que ceux qui sont autour de l'usine puissent pouvoir subir. Alors, d'une manière plus efficace et concrète, comment on peut arriver à procéder pour trouver quand même le juste milieu?
Ok, moi je pense que je parlais tout à l'heure du respect des normes. C'est la principale chose qu'on doit s'appuyer. Est-ce que, quelles sont les émissions, par exemple, je prends les cas des bruits. Et si la norme dit qu'il faut 50 décibels pour les milieux résidentiels, par exemple, mais l'usine ne peut fonctionner qu'à 70 décibels, par exemple. C'est ça la norme qui est autorisée. Il faut voir comment il faut essayer de pallier là-dessus. Parce que l'usine va dire, moi, ma norme, c'est 70. Ça, c'est ça les milieux industriels. Maintenant qu'on combine le 2, je crois qu'il faut trouver le juste milieu dans un premier temps.
Sans impacter sur le travail de l'usine et la production. Rachel a beaucoup insisté sur ça.
Effectivement, c'est l'histoire de la poule avec l'œuf, quoi. On essaie un peu de tourner là. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? On délocalise toutes les usines, mais il faut qu'on respecte, je disais en introduisant, d'abord, qu'on respecte les plans d'aménagement, qu'on sache où est-ce qu'on va implanter les unités. Deuxièmement, pour l'existant aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le plan de mise en conformité. Comment aider ces usines-là? Je prends le cas d'une usine qui émet, par exemple, des gaz. Dans son processus d'exploitation. Tout ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est dire, écoutez, une cheminée qui a été conçue, par exemple, une cheminée de 10 mètres pour des émissions, on est obligé de le demander à cette usine de corriger, par exemple, et d'aller à 20 mètres ou à 25 mètres dans la mesure du possible. C'est un coût supplémentaire, mais qu'il faut encourager. Il faut peut-être chercher des compensations quelque part. Mais néanmoins, il faut demander à cette usine-là, dites, écoutez, essayez de surélever votre cheminée de sorte que les gaz qui sortiraient, parce que, en fait, quelle est la réalité aujourd'hui? On est en train de construire deux fois un étage. Vous comprenez, on va à 5 niveaux, à 6 niveaux de toit dans certains quartiers. Ce qui faisait qu'une cheminée de 15 mètres en son temps
est rattrapée aujourd'hui par les immeubles.
Et l'impact est tout de suite dans ces immeubles-là. Donc, il faut demander, il faut concilier. Ça veut dire que nous sommes dans un processus. Je ne vous cache pas, ce matin, moi, j'étais sur le terrain quelque part pour essayer un peu de voir quelles solutions il faut apporter, pouvoir et conseiller. Nous jouons aujourd'hui le rôle d'abord des conseillers. Nous racontons les industriels pour voir quels sont leurs problèmes. Ils nous disent la même chose. Ils disent, voilà, nous, on a été là, voici notre process, et voilà comment on produisait. Maintenant, vous nous demandez plus. On leur fait comprendre aussi que c'est de leur intérêt. C'est de leur intérêt qu'on trouve une solution avec les populations riveraines, parce que sinon, demain, il y aura des sabotages même de ces installations. Il est possible que la population puisse se dire non, trop c'est trop, et nous, on ne peut pas continuer à s'y vivre.
Avant d'écouter les autres auditeurs, mais il y a cette question qui revient, parce que les gens ont parlé des autres services de l'État impliqués dans les lotissements, mais est-ce que dans les projets en amont, ces services sont souvent associés dans ce que vous faites comme travail pour dire, voilà, nous, on va installer une usine, il y a déjà une usine là-bas, écoutez, vous ne pouvez pas lotir, parce qu'on peut dire que chacun y va selon son intérêt. Le cadastre ou les affaires foncières, ils trouvent que non, ici on peut vendre autant de parcelles, ça fait autant pour les trésors publics, on y va, après on subit. Est-ce qu'il y a un travail qui s'est fait en amont entre vos services techniques qui sont spécialisés dans la protection de l'environnement et les services qui sont spécialisés dans le lotissement pour qu'on puisse avoir une vue commune?
En principe, oui. Je dirais en principe oui. Donc, les centres de tour, en fait, ça devait être le ministère de l'aménagement du territoire. Donc, lorsqu'on a une cartographie claire et nette, je crois qu'il ne devrait pas y avoir de débat après. Malheureusement, on est en train de mettre à jour les plans d'aménagement national. Nous participons, que ce soit le ministère de l'Environnement, nous participons à travers nos délégués, en principe. Hein. Ça, c'est sous le plan des principes. Nos délégués, que ce soit au niveau... On a des délégués au niveau des provinces. Donc, ils sont là pour participer lorsqu'il y a certaines décisions qui doivent être prises. Mais j'insiste beaucoup, c'est l'aménagement qui pose vraiment des problèmes. Si on doit résoudre ces problèmes-là, demain, on aura très, très peu. Et qu'une zone qui a été déclarée industrielle, qu'on ne puisse pas, d'un clin d'œil, désaffecter ça. Et ça pose des très sérieux problèmes environnementaux et sociaux.
081-899-49.
Parole aux auditeurs.
Pierre, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Vous nous avez appelé pour intervenir dans cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres les pistes de solutions que nous dégageons ensemble. Si vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, Pierre, et vous allez me suivre. Pierre, si vous pouvez, s'il vous plaît, carrément arrêter votre poste récepteur, s'il y a bien sûr des compatriotes qui ont besoin de suivre l'émission tout autour de vous, vous pouvez diminuer le volume, soit pour vous éloigner totalement du poste récepteur, comme ça, et ils pourront suivre votre intervention à la radio, et vous allez suivre l'interactivité à travers votre téléphone portable. Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Voilà, on vous écoute.
Bonjour, les auditeurs de Radio Kati.
On vous écoute, Pierre. Votre intervention par rapport à cet échange.
Oui, merci. Enfin, je suis avec beaucoup d'intérêt le spécialiste de l'environnement, du département de l'environnement, du ministère, je vois, ou bien du département de l'environnement, et puis c'est beaucoup d'auditeurs. Moi, ma question consiste enfin, disons, à la loi, à la fameuse loi du 2011. Alors, il paraît que cette loi, c'est depuis 2011 qu'il essaye de réguler les installations, enfin, disons, des industries dans des quartiers, soit industriels, enfin, dans des quartiers habitables. Et nous, récemment, dans notre quartier à Kigabwa, nous avons une société de fabrication de bouchons qui s'est installée l'année dernière. C'était pratiquement au mois de juin de l'année dernière. Et c'est une unité qui appartient à des Indo-Canadiens et qui s'appelle ACP, SFRL. Ils fabriquent, disons, de bouchons suivant le système graphique. Ils ont racheté ces installations d'un Zaïroua qui a abandonné et qui fabriquait à l'époque du gaz et l'oxygène. Alors, les Indiens sont venus s'installer, maintenant ils fabriquent des bouchons. Ce qui fait que dans leur processus de fabrication de ces bouchons, ils utilisent des plaques en aluminium sur lesquelles ils impriment le marque de chaque poisson à l'aide de produits, de la peinture, d'itinéraire. Et par la suite, ils placent ce plaque dans des fours, dans des séchoirs pour dégager, pour sécher et dégager, enfin, disons, les gaz qui ressortent, enfin, disons, de ce système de chauffage. Ces gaz-là sont recueillis dans les cheminées d'une petite hauteur, ce qui fait que tous les gaz toxiques qui proviennent de ce système de séchage se retrouvent dans l'air ambiant. Et ces gaz systématiquement rendent le plante environnante et disons détruisent, je peux dire, détruisent systématiquement le plante ambiante. Les plantes environnantes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des plantes séchées, des arbres séchés chez nous. Il y a des feuilles qui tombent à tout moment, on ne sait pas. Et on a essayé d'étudier, on a constaté que ce sont ces gaz-là. Et nous-mêmes, dans les environs, nous pouvons plus enfin nous promener librement, respirer l'air ambiant. L'air est devenu vicieux, vicieux et irrespirable. Ce qui fait qu'on est coincé la nuit même quand on est dans nos chambres. Nous sentons ces odeurs suffocantes qui nous étouffent. Alors, mon souci, ma crainte, c'est celle-ci. À force d'inhaler ces gaz-là, on est en train, enfin, disons, de nous tuer à petit feu. Comme ces gaz détruisent déjà des plantes. Et on ne connaît pas, enfin, maintenant, quel serait l'impact de ces gaz, enfin, dans les corps humains.
Oui, Pierre, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, dans les quartiers, d'approcher les unes ou les autorités chargées de l'environnement dans votre secteur pour discuter ou soit vous plaindre pour qu'ensemble vous puissiez trouver des solutions? Est-ce qu'une telle démarche a été déjà amorcée par vous, les habitants de ces quartiers?
Oui, nous avons, enfin, nous avons mené une démarche auprès de l'autorité politico-administrative, à savoir le bourgmestre de la commune. Il y a une pétition qui a été rédigée, qu'on lui a adressée, et la copie a été réservée. au ministre de l'Environnement, de l'Industrie, au gouverneur de la ville, et au pire même de notre paroisse, parce qu'il y a des membres de cette commission qui avaient rédigé cette pétition, qui sont dans la commission justice de notre paroisse. Nous avons réservé une copie au pire de notre paroisse. Et jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été réservée à cette pétition.
Voilà, merci beaucoup Pierre. Vous êtes d'ailleurs chimiste, c'est pourquoi on comprend, vous avez vraiment la maîtrise de comment tout cela fonctionne. Mais dis-moi, vous avez donné les références, les noms de la société. Notre invité fait ce travail aussi sur le terrain, il venait de nous le dire. Peut-être on pourra voir, dans la mesure du possible, comment entrer en contact avec vous, avec le quartier, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que l'idée aujourd'hui, comme le disait l'invité, c'est qu'on arrive à trouver quand même des solutions pour que et l'usine et la population, chacun puisse se retrouver dans la protection de ses intérêts. Merci beaucoup pour ces témoignages et cet éclairage. 081-890-4969. Docteur Richard, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Thierry. Bonjour à l'invité. Félicitations à tout le monde qui a parlé et merci pour la parole.
On vous écoute.
Pour la petite introduction, je voudrais dire ceci aux auditeurs. Comme le monde défile à l'ONU pour parler, qu'il n'oublie pas le feu maréchal Mobutu Sese Seko, qui, il y a une quarantaine d'années, avait dénoncé ce qui est aujourd'hui une fatalité, le réchauffement planétaire. Et personne ne le croyait parce que c'était peut-être un dictateur nègre. Deuxièmement, pour les Congolais, il doit être pris pour l'homme de la conservation et préservation de l'environnement parce que il est le premier chef d'État d'Afrique à créer le ministère de l'environnement. Ça, c'est la petite introduction. François Hollande, aujourd'hui, n'a fait que le suivre avec sa conférence qui va se tenir en décembre à Paris. Alors, pour le développement, c'est bien, comme l'invité a parlé, des mesures de délocalisation, du plan directeur d'aménagement, etc. Nous sommes un peuple comme si nous sommes sourds. Regardez un peu en dehors de toutes les usines qu'on a dénoncées là. Nos maisons sont aussi des usines. Nos voitures sont des usines. Comment nous gérons ce qui sort de nos maisons, ce qui sort de nos voiture, par exemple, etc. Okay? Est-ce que nous avons une politique de gestion, par exemple, de la fumée, il a parlé de ça. Est-ce qu'on met les filtres, comme on dit, à particules Regardez quand on fait les routes par nos amis chinois. Nous sommes un pays de l'eau. Est-ce qu'on met la terre pour que la poussière ne monte pas dans les narines des gens? Et puis, depuis que cette loi est sortie jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a imposé aux usines, le traitement de leurs déchets. Est-ce qu'on a fait ça? Faisons comme le Rwandais, même s'ils sont des agresseurs du Congo à mille fois, à mille répétitions. Quand le Rwanda avait dit pas de sachets plastiques, on a fermé toutes ces usines. Mm-hmm. On n'a pas dit demain, qu'est-ce que ces gens deviendront? On a vu la santé de la majorité. Aujourd'hui, on a dénoncé, par exemple, la pollution des rivières. Vous savez que ce sont des réserves alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut aller prendre là-bas? La teneur de méthodes dangereuses, le plomb, l'arsenic, etc., est passé du simple à 1000 ou à 10 000 dans nos rivières. Est-ce que c'est encore des réserves alimentaires? Notre Bukangalonzo utilise des engrais, des pesticides. Qui est allé regarder là-bas? Qui est allé regarder? Je pose la question au président du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui est allé regarder? Est-ce qu'on n'utilise pas les chlordécanes qui donnent le cancer de la prostate? Comme dans les Caraïbes. Alors, maintenant pour moi, le problème est d'intégrer dans la nouvelle citoyenneté parce qu'on nous enseigne seulement les drapeaux, on nous enseigne ne pas faire la rébellion alors qu'il se prend des gens, si je veux paraphraser Maître Bondo, qui ont enterré des gens, des femmes en vie à l'Est, et ils ne sont jamais intéressés, inquiétés.
Donc,
nous enseignons dans l'éducation, comme on dit environnementale, tous azimuts.
Voilà, merci beaucoup, docteur Richard. Voilà, vous estimez qu'il faudrait intégrer aussi la gestion de déchets ménagers, de nos véhicules. Il ne faut pas seulement regarder du côté industriel, il faut descendre aussi au niveau de la petite échelle. Merci, docteur Richard. Et il faudrait que la loi, qui depuis 2011, qu'elle soit aussi vulgarisée. Nous allons écouter les deux derniers auditeurs, Étienne qui est à Guémena, Madame Liliane ici à Kinshasa. Étienne, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à vous, Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
En une minute, Étienne, votre intervention.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je pense que, bon, les prédécesseurs ont presque tout dit. Je voudrais ajouter en disant que parmi les objectifs du millénaire, je crois la protection de l'environnement se figure. Alors, comme l'expert, l'invité l'a dit, moi je pense que la responsabilité est partagée. Dans la mesure où, vous avez remarqué, monsieur le journaliste, que là où déjà les usines ont été implantées, l'État a loti ces espaces et maintenant ça pose problème. Mm-hmm. Mais aussi, il y a aussi un grand problème, celui quand même de voir l'étude vraiment quand les projets sont présentés. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, quelqu'un vient présenter son projet et pour besoin d'argent et peut-être pour manque de contrôle initial, on accepte l'endroit sollicité par les soumissionnaires, mais on oublie que il y a croissance, on aura à implanter d'endroits à côté. Donc, ouais, de toute façon, je pense que l'État devrait nécessairement prendre des mesures d'accompagnement, des mesures conséquentes, pour que tout ce que nous sommes en train de décliner, la vie humaine est sacrée, on ne peut pas quand même sacrifier la vie humaine, mais je voudrais continuer en disant que d'où la laisser, c'est de laisser. La loi est dure, mais reste la loi. Et la loi soit appliquée, fini.
Merci beaucoup, Étienne. Il faut appliquer la loi, tout simplement. Nous allons vous écouter, Madame Liliane. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci de vous être joint à nous dans cet échange. Bonjour, Madame.
Bonjour, monsieur le présentateur.
Voilà, si vous voulez diminuer le volume de votre radio rapidement, oui, parce que là, on court vers les dernières minutes de l'émission. Si vous pouvez diminuer carrément, ou soit arrêter, madame, arrêter carrément votre poste récepteur. Oui, on vous écoute maintenant rapidement, oui.
Ok, merci beaucoup de me passer la parole, et puis je salue tous les auditeurs.
Mm-hmm.
Alors, c'est une émission qui est très, très importante, parce que l'environnement, comme l'a dit notre invité, concerne tous. Nous tous et à tout le niveau national. Alors, je me dis que dans notre pays, est-ce qu'il existe une politique de la gestion environnementale? Parce que la gestion des déchets, c'est une autre paire de manches, mais la politique d'une manière globale pour que la population s'imprègne. Notre invité a parlé sur les normes. Quelles sont les normes de l'environnement? Quelles sont les normes qui sont édictées dans notre pays? Parce que dans la matière de normes, c'est une matière de souveraineté. Qu'est-ce que le pays a fait jusqu'à ces jours pour mettre les normes sur table pour les consommateurs qui sont la population congolaise puissent s'en approprier. Alors, moi je voudrais intervenir sur le pylône. Les pylônes qui sont aujourd'hui parsemés par-ci par-là, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, si pas dans la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est l'infrastructure de pylône en matière de télécommunications. Il y a l'impact négatif là-dedans par rapport à la proximité avec la population.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, nous voyons ces pylônes dans des parcelles résidentielles. S'il vous plaît, monsieur le présentateur, à 0 mètre, c'est-à-dire à 10 mètres de là où la population passe, vit. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu en cette matière. Parce que c'est comme un secteur qui n'est pas suivi, qui n'est pas surveillé, qui n'est pas contrôlé. les pylônes, ça naisse du jour au lendemain. Moi, dans mon quartier, déjà, nous avons fait plusieurs pétitions, mm-hmm. mais qui reste lettre morte en cette matière.
Voilà, merci.
Le GEC, qui est géré par notre ami l'invité, M. Méné, c'est vrai, c'est un mécanisme qui est mis sur place. Mais je me pose la question si ce mécanisme est doté vraiment de moyens de pouvoir
faire appliquer sa politique. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Liliane. On est vraiment coincé par les temps, Samy. Vous êtes à Guimena, ce n'est qu'une partie remise. Et Samy, on pourra bien vous joindre prochainement pour d'autres débats. Parce que là, la question elle est vraiment importante. Elle demande aussi assez de temps vraiment pour en parler. Peut-être que ce n'est pas la dernière émission. On pourra revenir encore avec notre invité pour voir comment élargir cet échange. On revient à vous, monsieur Jean-Claude Emine. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai, ça nous a permis de pouvoir brosser, balayer la cartographie des problèmes que les gens ont posés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, mais aussi profiter pour conclure. On se rend compte, comme le disait tout à l'heure Madame Liliane, que la question, elle doit vraiment être assez élargie.
Oui, merci Raoul. Je voudrais dire que si, pour M. Pierre qui est à Kingaboa, il ne peut pas dire que leurs correspondances ont resté lettres mortes. Je parlais en emploi dans cet studio que je venais du terrain.
Mm-hmm.
Effectivement, moi j'étais à Kingaboa, à cette entreprise, à ses pieds. Il peut faire confiance au GEC, au ministère de l'Environnement. Et nous étions sur le terrain pour voir les problèmes.
Mm-hmm.
Et donc, comme vous disiez, si je dois conclure, je vais dire que la gestion de l'environnement relève de la compétence de l'ordre général. Nous devons, nous tous, mettre la main dans la pâte pour gérer durablement l'environnement. Et il y a beaucoup de questions, des problèmes qui se posent. Il y a moyen de trouver solution tous ensemble. Deuxièmement, l'étude d'impact environnemental est un outil important de gestion environnementale et que sa mise en œuvre permettrait de résoudre beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui. La prise en charge au fait de la réhabilitation relève au fait du principe de pollueur-payeur et il revient seulement à nous de nous déployer correctement, raison pour laquelle le gouvernement a pensé créer cette nouvelle structure qu'on appelle l'Agence congolaise de l'environnement pour répondre à cela.
Et c'est ce que Mme Liliane dit, mais est-ce que toutes ces structures ont les moyens nécessaires pour faire appliquer vraiment les politiques sur le terrain?
Justement, c'est après avoir analysé que, au fait, la mauvaise approche, aujourd'hui, on a créé cet établissement public qui sera doté de moyens suffisants pour la gestion environnementale.
Merci beaucoup, M. Jean-Claude Emene. Je crois que c'est pas la dernière émission pourra résumer parce que les questions vraiment elles sont très très importantes. Merci à Gérald Ngembo qui a coordonné cette émission réalisée par Julie Feza Bongonda, à Sylvain Matongeté à la mise en onde, Pierrot et la Méji vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Merci, au revoir.